Voilà, on va parler philosophie dans quelques instants sur Radio Campus dans le cadre de Cité Philo. 106.6 FM, www.campuslille.com, vous écoutez Radio Campus, la radio de l'Université de Lille.
Des jours à laisser faire, ici le temps d'une vie, retour à l'âge de pierre, welcome to Sin City, quelques pas en arrière, exploser la voix sans issue, des couleurs dans la tête.
Voilà, donc sur Radio Campus, on va parler de Cité Philo. Alors la semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'accueillir des invités qui étaient des philosophes. Cette semaine, eh bien, nous allons accueillir Claire Allard qui avait reçu ses invités et qui va nous faire un petit point sur, en instant T, là, où on est Cité Philo par rapport à la semaine dernière, peut-être ce qu'il y a eu d'intéressant et ce qui reste encore à découvrir. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors, donc tout d'abord, la semaine dernière, nos invités nous ont un petit peu parlé de ce concept de Cité Philo. On va peut-être en quelques mots dire, c'est un événement annuel qui se passe cette année de jusque quand, on va dire.
Alors du coup, cette année, l'événement aura lieu jusqu'au 26 novembre. Donc ça a déjà commencé donc, le 7 donc, de ce mois-ci. Et on pourra retrouver donc, toutes les interventions qui ont déjà eu lieu sur le site internet. Donc deux cités philo qu'on peut retrouver très facilement et donc les conférences sont mises en ligne, il y a des captations qui sont faites.
Alors il y a bien sûr énormément de choses dans ce festival. Hein.
Oui, énormément sur le thème donc que croyez-vous, un thème qui est très large et qui permet de voir aussi que la croyance n'est pas forcément liée à la religion, mais aussi à plein de domaines d'études, à l'actualité également. Ça permet aussi de prouver que la philosophie n'est pas passé de mode, entre guillemets, que ça n'aborde pas que des philosophes qui sont décédés, mais aussi des sujets d'actualité. On a parlé notamment la semaine dernière, mardi dernier, à Douai, des politiques de migration, de l'accueil des migrants. Et donc, justement, l'enjeu ici, c'était de montrer que certaines croyances, c'était accueillir des migrants. Pour d'autres, c'était justement, entre guillemets, les renvoyer chez eux. Et voilà, donc les croyances, c'est pas forcément des connaissances, mais c'est ce qui nous permet d'appuyer un socle de connaissances et de fonder un peu notre vie.
Voilà, donc chacun dans le contexte dans lequel il vit définit ses propres croyances.
Voilà, c'est ça.
Donc qu'est-ce qu'on peut encore voir, entendre? Comment d'abord, il y a des conférences, est-ce qu'il y a aussi d'autres types de manifestations dans ce
Alors, il faut savoir que du coup, Cité Philo, à la base, donc c'est pas vraiment des conférences, c'est des rencontres. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Donc déjà, dans un premier temps, un modérateur, donc un membre de Cité Philo introduit des invités. Et donc, ces invités ont un débat ensemble s'ils sont plusieurs ou avec le modérateur s'ils ne sont que deux. Et donc, ça dure une heure. Et à la suite de ça, une seconde heure est ouverte au public qui peut poser ses questions. Ça permet d'avoir un vrai dialogue, un vrai débat. Et c'est ce qui fait aussi une des forces de Cité Philo.
Alors, les jours prochains sont-ils riches encore ? Est-ce qu'on a de quoi inscrire sur notre calepin des rendez-vous ?
Alors oui, alors je dirais déjà pour ce soir même, donc il y aura une rencontre 60 ans de jazz, donc de 20h à 22h30. Donc ce sera, évidemment je ne sais plus, donc du coup c'est avec François Janot, donc qui est saxophoniste de jazz et compositeur. Et donc ce sera pour parler du jazz et ce sera à la Malterie, donc c'est à Lille, métro Porte des Postes.
D'accord. D'autres événements, alors là c'est autour de la musique, mais je suppose là, d'un point de vue philosophique, je ne sais pas ce qui peut en être dit, on découvrira ça ce soir.
Oui, d'un point de vue philosophique, oui, c'est vrai que du coup aujourd'hui en fait on est le 22 novembre, et le 22 novembre c'est le jour de la Sainte Cécile,
donc la fête des musiciens.
Voilà, la Sainte Patronne des musiciens.
Il fallait marquer le coup, effectivement. Alors dans les prochains jours
Donc demain, il faut savoir qu'en fait, Cité Philo a aussi un partenariat avec l'ESJ. Donc voilà, donc il y aura une conférence demain de 17h à 19h, le djihadisme et les femmes. Donc on pourrait penser que ça fait un petit peu réponse à la politique des migrants qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc là, ça nous dit qu'il y a environ 500 femmes qui ont choisi de rallier Daesh. Et donc montrer un peu ce que font ces femmes, pourquoi elles ont choisi de rejoindre Daesh, est-ce que c'est pour suivre souvent leurs époux, est-ce que c'est des convictions personnelles, est-ce que en tant que femme on est reliée encore à notre époque, à notre mari, ou est-ce qu'on est libre de penser comme on le souhaite ? C'est une des questions qui sera...
Alors, c'est vrai que quand on est femme c'est compliqué, quand on est enfant ça l'est peut-être encore davantage.
Voilà, c'est ça, et justement dans l'actualité on peut voir que... Il y a toute une question, est-ce qu'on doit ramener les enfants de parents qui ont rallié, de parents français qui ont rallié donc Daesh, qui sont actuellement en Syrie, et certains, par exemple, dans le Nord, il y a une famille de grands-parents qui réclament la garde de leurs petits-enfants qui sont actuellement en Syrie. Donc voilà, c'est toute une question, doit-on accepter qu'ils reviennent sans leurs parents ? Du coup, c'est assez...
Voilà, donc un contexte très particulier avec de nouveaux problèmes qu'on n'envisageait peut-être pas il y a 10 ans ou 20 ans.
Voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi, donc, c'est ce que je voulais aborder, la seconde force de Cité Philo, c'est que ça n'aborde pas que donc, des sujets philosophiques, mais aussi donc, la philosophie qui est liée à plein de domaines comme les sciences, la médecine, l'actualité énormément, la politique. On peut aussi bien, je me souviens, donc, j'étais déjà bénévole l'année dernière. Mmh. Donc le thème de l'année dernière, c'était la République et l'universel, et il y avait eu une conférence sur les greffes de peau. Et c'est vrai que sur le coup, c'était ma première année, j'étais un petit peu étonnée qu'on puisse aborder de tels sujets dans Cité Philo. Mais voilà, il faut se dire que même si on n'est pas forcément très intéressé par la philosophie, mais si on n'a pas énormément de connaissances, on peut forcément trouver au moins une conférence qui nous intéressera et sur un sujet pour lequel on a de l'intérêt.
Alors Claire, donc tu peux peut-être nous dire en tant que bénévole la relation à l'équipe d'une manière générale, comment ça se passe ?
Ah oui, alors donc ça commence. Je suis étudiante en philosophie, donc déjà à la base j'étais un petit peu entre guillemets prédestinée à faire partie de cet événement parce que donc Frédéric Gendre, le responsable de notre bibliothèque à l'université, nous en avait parlé l'année dernière, donc on dit qu'on se porte volontaire, tout ça. Et ensuite, on est recontacté par Myriam Pleine-Maison, qui est donc la responsable logistique de Cité Philo. Et alors là, s'ensuit une longue réunion de plus de 2 heures, parce que donc voilà, Cité Philo, c'est énormément de rencontres. Et pour toutes ces rencontres, il y a au moins 2 bénévoles Cité Philo, sachant qu'on est une quinzaine, vingtaine de bénévoles, pas tous très jeunes, hein. On pourrait croire qu'on est tous étudiants, mais non, on a déjà vu, Je pense par exemple à Hortense qui a plus de 60 ans, qui est en retraite, mais qui fait toujours activement partie de ce processus-là. Et donc voilà, trouver des bénévoles qui vont donc aux rencontres, faire passer des micros, qui tiennent une librairie. On a énormément de petites librairies partenaires qui permettent aux auditeurs, aux personnes qui viennent voir les rencontres, de pouvoir se procurer les ouvrages des invités. Et puis, c'est aussi aller chercher donc, les intervenants à la gare, les emmener manger, les emmener à leur hôtel. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui permettent aussi de voir un petit peu les invités dans d'autres circonstances, qui permettent d'échanger aussi. Cité Philo, ça permet aussi de beaucoup s'enrichir humainement et intellectuellement, d'acquérir énormément de connaissances, mais voilà, aussi de se faire aussi un petit peu des contacts.
Alors, tu es étudiante en philo, tu l'as dit, il y a beaucoup d'étudiants finalement en philo dans l'université de Lille.
Un petit peu quand même, c'est vrai qu'en première année, ils sont bien 150. Alors là, par exemple, en troisième année, on n'est plus énormément. Mais
Combien il en reste au bout de 3 ans ?
En philo, alors il y a deux parcours à l'université de Lille 3, philo option philosophie et philo option sociologie. Donc en option sociologie, ils doivent être encore 6 ou 7.
Oh. Et sur combien ?
Au début, je pense qu'ils étaient bien une cinquantaine.
D'accord.
Et maintenant, nous, en philo, option philo, on doit être encore une quarantaine. C'est déjà pas mal.
Sur 100, 200.
Voilà, c'est ça.
Sur 100, une centaine.
Après, il faut se dire aussi qu'en première année, on perd beaucoup de personnes, mais ne serait-ce que par les personnes qui s'inscrivent et ne viennent jamais. En fait, sur la feuille, c'est toujours marqué qu'on est énormément. En réalité, on n'est pas tant que ça.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui motive pour... on va dire, imaginer de faire un cursus d'études en philosophie.
Alors moi, c'est un parcours un petit peu atypique. J'étais en terminale S et je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et la philosophie m'a énormément plu en terminale. Et j'en avais parlé à ma professeure à ce moment-là. Et elle m'avait dit, philosophie, tout seul comme ça, si tu veux pas faire prof de philosophie, c'est quand même un petit peu risqué. Donc je m'étais renseignée, j'ai fait pas mal de portes ouvertes et je suis tombée sur l'Académie ESJ qui offrait donc une formation post-bac d'initiation au journalisme. C'était la seule école à proposer cette formation qui permettait aussi de découvrir sans pour autant s'engager pleinement dans le journalisme, qui permettait un petit peu de papillonner sur plein de sujets. Et ça m'a plu et voilà, je suis restée.
Voilà, donc 2 années dans le cadre de l'Académie ESJ. Cette année, tu es encore à l'ESJ ?
Oui, je suis encore à l'ESJ.
Donc
je fais la préparation,
on va dire, hein,
voilà, préparation
au master.
Préparation au concours, donc c'est beaucoup d'épreuves à rendre pour s'entraîner. Espérer avoir une place dans une des 14 écoles reconnues.
Alors évidemment, il y a un certain nombre de philosophes qui ont été dans ta classe de l'Académie ESJ,
oui.
Ce qui prouve que beaucoup de gens sont aussi intéressés par le journalisme ou par les médias d'une manière globale, dans les philosophes, enfin
alors,
les étudiants.
En philosophie, donc là, cette année, on est 3 étudiants à l'Académie.
Mmh.
Et je sais que la première promo, il était tout seul. Donc
ah
c'était
ouais.
Thomas et il était tout seul.
Bon.
Donc c'est vrai qu'on n'est pas tant que ça comparé, par exemple, aux sciences politiques, ceux qui font une licence de sciences politiques ou d'histoire. C'est vrai qu'ils sont énormément. Nous, on est un tout petit peu moins, mais c'est vrai que des fois, c'est peut-être pas plus mal. Et en soi, je pense que la philosophie nous sera vraiment un atout dans le milieu du journalisme. Parce qu'elle offre aussi des connaissances en fait, de base sur la réflexion du monde. Et c'est sur ça qu'on se base aujourd'hui. Donc c'est pas plus mal.
C'est vrai qu'on est dans un monde qui nous semble, enfin qui me semble en tout cas, de plus en plus complexe.
Oui.
Et où ces questions, notamment celles dont tu parlais tout à l'heure, avec ces personnes qui vont à l'étranger se battre pour des causes obscures d'une certaine manière. Effectivement, le journaliste de base est certainement un peu démuni parfois.
Oui, c'est pour ça, je pense qu'il faut qu'on... Je pense que voilà, c'est pour ça qu'ils appuient tellement sur les épreuves dans les concours, les épreuves d'actualité, de compréhension du monde, parce que voilà, on a besoin de journalistes qui connaissent exactement ce qui se passe dans le monde, qui ont une réelle compréhension de ça, pour pouvoir informer la population. Je pense qu'on ne peut pas informer pleinement si on n'est pas soi-même totalement au point sur un sujet. Et alors je dis pas que c'est toujours facile, connaître plein de choses sur plein de sujets différents, c'est parfois c'est parfois compliqué, mais c'est aussi très enrichissant. Je pense que maintenant, on a tous besoin d'avoir au moins un socle commun de connaissances pour notre vie future.
Alors, toujours dans ce domaine de philosophie et journalisme, est-ce que tu as une perception, on va dire, internationale de la philosophie? Est-ce que tu ressens des courants assez différents d'un pays à l'autre? Et est-ce que toi aussi, en tant que futur journaliste, ce que je te souhaite évidemment, hein, tu aurais un regard qui se développe vers l'international?
Alors, je pense que je vais commencer par la dernière question. Oui, forcément, vers l'international. On n'est pas. Alors pour moi, c'est vrai que j'ai une vision assez internationale, mondiale des choses. Je me vois pas. J'arrive pas à me définir comme française, mais avant tout comme humaine. C'est-à-dire que voilà, je me vois d'abord comme, entre guillemets, c'est très utopique, mais plus comme citoyenne du monde que comme citoyenne de France. Et je trouve ça important qu'on soit tous sur un pied d'égalité et qu'on s'intéresse à tous les humains dans leur diversité. Et donc, voilà. Toute leur culture, tout ça peut être très intéressant. Et c'est vrai que voilà, pouvoir s'approcher de toutes ces cultures, en apprendre un maximum, c'est...
Et donc là, on est vraiment, depuis quelques années, hein, dans la confrontation d'idées, hein, d'une manière mondiale. Hein. On apprend que d'autres formes de pensée existent, d'autres organisations sociales, d'autres modes de fonctionnement plus ou moins démocratiques. Tout ça, on a parfois, nous, en tant que Français, du mal à saisir le fait que d'autres fonctionnent autrement que nous. Est-ce que la philosophie permet de raisonner par rapport à ça, ou de se positionner, ou de se dire que ailleurs c'est autrement, ça mérite aussi d'être réfléchi ou pris en compte?
Mais tout à fait, c'est vrai que c'est, je pense notamment à Rousseau dans Le Contrat social, qui définit comme ça toutes ces formes de régimes politiques gouvernés par un, gouvernés par plusieurs, gouvernés par tous, et pour un, pour plusieurs ou pour tous, c'est vrai que ça dépend si le chef de gouvernement ou de dictature pense d'abord à lui-même ou à son peuple, et s'il gouverne pour une tranche de personnes ou pour toute la population. Et c'est vrai que c'est tout un mode de choix à faire. Et c'est vrai que selon lui, en fait, la République n'est pas forcément le meilleur régime politique. Donc c'est vrai que pour ça, voilà, Rousseau c'est un auteur que j'admire énormément, et c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui. Tous les régimes ont leurs qualités, leurs défauts, et je pense que c'est bien de s'intéresser à tout. Alors bien sûr, je suis pas en train de défendre par exemple des régimes comme la Corée du Nord, hein, mais c'est vrai que voilà, ça pose beaucoup de questions, et c'est un des enjeux du monde contemporain, arriver à comprendre voilà, c'est ce type de gouvernement. Là par exemple, on voit au Zimbabwe Robert Mugabe qui a démissionné.
Mais il était temps. Quel âge il avait?
93 ans, ouais. Et il était au gouvernement il était chef du gouvernement depuis 37 ans. Il me
Là, lui, il avait un peu le culte aussi de cette personnalité. Mais après, on peut mettre peut-être ça en perspective avec le statut des personnes âgées. Je dis ça parce qu'il y a des cultures où le vieux, il reste encore important, et on ne peut pas l'abandonner comme ça, quoi. Il reste toujours tant qu'il n'est pas mort. Les papes, par exemple, hein, souvent, ils restent longtemps aussi.
Oui, je pense que voilà, ces personnes-là sont encore synonymes pour une part de la population de sagesse. Et on peut très bien le comprendre. C'est vrai que nous, par exemple, on est bien avec un nouveau président de 39 ans, le plus jeune de la 5e République. Donc on se modernise, c'est pas mal aussi. C'est vrai que c'est bien d'avoir ces deux points de vue.
Voilà. Donc tout ça, ça rend philosophe, forcément.
Voilà.
Donc admettre la différence, peut-être, et puis aussi essayer de la remettre dans un contexte. Bon, c'est un peu l'idée.
Oui, tout à fait, et c'est pour ça que je m'intéresse énormément, par exemple, aux actions que mène l'ONU, tout ce qu'ils font pour préserver la paix et dans le respect et la dignité des personnes, c'est-à-dire s'intéresser d'abord à la culture, au régime politique de chaque pays avant d'envisager des solutions. Et alors, je dis, ça marche pas forcément à tous les coups. On le voit par exemple avec les embargos du coup avec la Corée du Nord. Ça n'empêche pas la Corée du Nord de continuer ses essais sur le nucléaire, mais pourtant voilà, on essaie de faire au mieux pour chaque pays, et c'est voilà.
Donc l'ONU, on pourrait parler aussi de l'UNESCO, qui est un organisme, oui, très intéressant, puisqu'il permet notamment de défendre les spécificités culturelles de certains peuples, de certains certaines coutumes, comme ici par exemple, on a plein de lieux maintenant référencés UNESCO dans la région de France, hein. Donc, et dans d'autres pays du monde aussi. Alors je vois que les États-Unis ont abandonné l'idée de contribuer à l'UNESCO. Enfin, je ne sais pas si c'est fait ou ça va se faire, mais visiblement ils vont quitter à la fois le système et donc ne plus le financer également. C'est quand même un poids important en termes de financeurs au départ.
Ah oui, mais c'est le cas pour énormément de choses. Enfin, les États-Unis quittent à l'heure actuelle énormément de programmes qui sont en place depuis maintenant plusieurs années. On peut penser également à la COP... COP 21 qui quitte à l'heure actuelle, ça va laisser quand même un gros vide dans le financement. Et malgré donc d'autres industries, des personnes à moindre échelle qui vivent aux États-Unis, qui veulent continuer à participer aux engagements aux accords de Paris, le retrait des États-Unis ne favorisera pas la baisse du réchauffement climatique.
Voilà, donc on va rester philosophe, voilà. Finalement.
Non, c'est vrai que l'avenir est incertain, on peut pas savoir. La seule chose qu'on peut faire, c'est étudier, connaître un maximum de choses sur un maximum de sujets pour au mieux comprendre le monde contemporain. Et voilà, je pense que si on connaît soi-même pas mal les choses, les enjeux que cela représente, on sera plus à même de prendre les bonnes décisions.
Alors quand tu dis l'avenir est incertain, est-ce que pour un philosophe, le fait qu'il soit certain, c'est forcément mieux ?
Non, non, non. Je pense que le premier travail du philosophe, hein, tout du moins une majorité de philosophes, je pense, recherchait le bonheur. Et le bonheur passe aussi... pour moi, là c'est un avis très personnel, pour moi le bonheur passe aussi par une compréhension des choses. Je pense que j'aurais beaucoup de détracteurs sur cette idée, mais c'est vrai que oui.
Voilà, et puis aussi garder une part de choses ouvertes, de monde ouvert, hein. Autrement on s'ennuierait quand même si tout était linéaire et cadré. Voilà, donc merci pour ces perspectives de réflexion. On va rappeler les prochains rendez-vous de Cité Philo, si tu veux bien.
Alors nous disions ce soir de 20h à 22h30, 60 ans de jazz à la Malterie. Et puis également donc demain soir le djihadisme des femmes, donc cela aura lieu à l'école supérieure de journalisme, donc rue Gauthier de Châtillon à Lille. Et puis donc pour toutes les autres conférences, rencontres et vidéoprojections qui auront lieu d'ici dimanche, on peut retrouver tout ça sur le site de Cité Philo.
Merci Claire Allard, très bonne continuation.
Merci, au revoir.